Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau, assuré quasiment chaque dimanche par notre partenaire Pierre Hiverna qui dirige la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Alors de quoi allez-vous nous parler en fin d'émission vers 12h25 aujourd'hui?
Eh bien, en cette période de rentrée scolaire, je vais vous emmener à la cantine.
À la cantine et parler des cantines, tout simplement, ce qu'on va manger dans la cantine?
Un petit peu plus, mais je laisse la surprise.
À tout à l'heure, 12h25. Mathéo Caranta est avec nous. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
La madeleine aujourd'hui, le souvenir gustatif de quelle personnalité?
Bien, cette semaine, j'ai eu la chance de prendre un café avec le réalisateur du Petit Quinquin, Bruno Dumont.
À tout à l'heure, 12h15. Et pour notre plat du jour, nous allons parler d'un sujet dont personne ne parlait il y a 10 ans, mais qui est devenu très tendance. Peut-être depuis qu'on reparle de l'importance du fait maison et qu'on vante les vertus des produits simples et sains. Elle est le point commun entre un yaourt, des câpres, du vin blanc, une miche au levain et une choucroute. Choucroute qui, au passage, a permis aux marins du capitaine Cook au XVIIIe siècle d'échapper à la maladie du scorbut, alors fréquente sur les navires d'exploration. Alors, ne dites plus macération, maturation, affinage, séchage, boucanage. Dites fermentation, ce n'est plus un gros mot. Et pour parler de fermentation, là on entend le son de la fermentation du vin dans des cuves par exemple. Pour parler de fermentation et d'aliments fermentés, nous avons autour de la table les deux invités incontournables, j'ai envie de dire. Ensemble, ils ont écrit un livre malheureusement épuisé qui s'intitule « Terroir au pluriel, réflexion d'un cuisinier ». Il va falloir le réimprimer très vite. Yannick Aleno est avec nous, bonjour.
Ravi d'être avec vous.
Mais c'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes l'un de nos plus grands chefs de cuisine, fermez vos oreilles. Vous êtes l'un des premiers à avoir remis la fermentation au goût du jour. Vous êtes à la tête d'une dizaine de restaurants dans le monde, dont Aleno Paris, au pavillon Le Doyen, qui a 3 étoiles au guide Michelin. Et puis à côté de vous, Marie-Claire Frédéric. Bonjour madame.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste culinaire, vous êtes spécialiste des aliments fermentés. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages de référence sur le sujet, dont une histoire de la fermentation qui a paru sous le titre « Ni cru, ni cuit » chez Alma Éditeur. C'était en 2014. Vous tenez un blog aussi depuis 5 ans, qui a d'ailleurs le même nom, nicru-nicuit.com. Et vous avez par ailleurs ouvert votre propre restaurant à Paris. Il s'appelle Suri. Et il est consacré à la fermentation naturelle. Alors, on va commencer par des choses très simples pour des néophytes tels que moi et certains, j'imagine, de nos auditrices et auditeurs. C'est quoi un aliment fermenté, Marie-Claire Frédéric?
Alors, un aliment fermenté, c'est un aliment qui a été transformé par des micro-organismes. Voilà, tout simplement.
Type moisissures, bactéries, champignons.
Voilà, c'est ça, des levures, des moisissures, des bactéries.
Quand vous dites « il a été transformé », c'est d'un processus naturel ou par la main de l'homme?
Alors, je vais dire les deux, mon général. Parce que d'abord, avant tout, c'est un processus naturel. Mais la main de l'homme est quand même nécessaire pour arriver à un résultat optimum. Parce que par exemple, si on laisse un litre de lait naturellement comme ça, tout seul, il va pas se transformer ni en camembert, ni en comté, ni en...
Il risque de tourner.
Il risque de tourner, voilà. Donc le processus est quand même naturel, puisque ce sont les bactéries qui vont officier, mais l'homme est là pour diriger, on va dire,
la fermentation. Pour contrôler la fermentation.
Contrôler la fermentation.
Parce que quand on regarde des synonymes de fermentation dans le dictionnaire, ce que je me suis amusée à faire, on trouve décomposition, faisandage, putréfaction. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi c'est associé autant aux moisis, aux pourris. Vous allez, je crois, Marie-Claire Frédéric, sortir un livre sur le pourri, donc vous êtes toutes disposées à répondre. Alors même que la fermentation, c'est une méthode de conservation. Voilà. Pourquoi c'est associé aux pourris?
La frontière entre le fermenté et le pourri, elle est vraiment très ténue, très, très mince. Et en fait, c'est uniquement une question de point de vue. Parce que, par exemple...
C'est souvent le cas pour beaucoup de choses.
Voilà, mais... c'est vrai. Par exemple, le Nguyen Mam vietnamien. Il y a beaucoup d'Européens qui pensent que c'est du jus de poisson pourri, tout simplement. Et faites goûter un camembert à un Asiatique, il va trouver ça horrible, il va penser que c'est quelque chose de répugnant et de pourri, c'est du lait en décomposition. Voilà. Donc la différence, elle est uniquement une question de culture, question de point de vue.
Yannick Aleno, qu'est-ce que le cuisinier trouve d'intéressant dans la fermentation ?
Pour moi, c'était une notion de terroir, puisque quand j'ai acheté, en partenariat avec Michel Chapoutier, notre grand vigneron des Côtes-du-Rhône, une parcelle de vigne avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment perturbé, puisque à l'époque, je travaillais sur le terroir parisien, la réversion agricole en Île-de-France. J'ai beaucoup œuvré pour que les agriculteurs de notre environnement aient des lettres de noblesse. Il m'a dit, tu sais, seuls les produits fermentés peuvent parler du terroir. Ça m'a beaucoup perturbé au sens où, pour moi, le terroir était une zone géographique et non pas liée à un biotope naturel de la terre. Voilà, donc il a fallu que je comprenne la fermentation et c'est Marie-Claire Frédéric qui m'a éclairé sur le sujet.
Oui, mais alors, vous pouvez nous éclairer à notre tour. En quoi la fermentation est-elle un révélateur de terroir ou d'identité du terroir?
Bah, c'est assez simple à comprendre. Vous prenez une grappe.
Ah, bah, non, c'est facile à dire. Vous avez réfléchi pendant.
C'est facile à comprendre au sens où, quand, si vous allez vous promener sur une parcelle de vigne séparée par une route et vous goûtez le raisin cru, vous allez avoir du mal, je pense, très honnêtement, à trouver une différence de goût. Alors que quand vous commencez à faire le vin, donc fermenter le raisin, vous allez vous apercevoir que des notes différentes peuvent apparaître en fonction de la nature des sols. Et voilà ce que révèle la fermentation. Et c'est hyper intéressant quand on parle de gastronomie.
Marie-Claire Frédéric.
Oui, d'ailleurs, c'est pas uniquement vrai pour le raisin. On avait fait des expériences sur le céleri, par exemple.
Un produit fétiche de Yannick Alénon. Voilà,
on avait fait fermenter des céleris de provenances différentes, de plusieurs provinces de France, fermenter de la même façon, au même endroit, pendant le même temps. Et à la dégustation, ça s'est avéré complètement différent. Certains céleris avaient des notes plus herbacées, d'autres un peu des notes d'agrumes. Enfin, c'était complètement différent. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose vraiment à creuser. Et c'est intéressant pour un cuisinier parce que ça permet de donner du goût au plat, aux sauces, tout ce qu'on veut, sans avoir à rajouter d'arômes, de choses comme ça. Enfin,
la fermentation, c'est un rehausseur de goût, Yannick Alénon?
C'est un rehausseur, notamment. Enfin, moi, j'ai fait un process nouveau pour réaliser les sauces modernes. C'est-à-dire, c'est assez complexe, mais pour faire court, c'est la cuisson des éléments à la juste température. La juste température, c'est finalement la vraie définition du feu. Hein, depuis que on a découvert le feu, c'était les mots qu'il fallait donner pour écrire et définir le feu. Donc, on parle du céleri tout à l'heure. Je le cuis à 83 degrés pendant 12 heures. Et là, c'est la cuisson la plus parfaite. Et ensuite, je fais une réduction, j'enlève l'eau, non pas par le feu, par évaporation, et je fais une évaporation par le froid, ce qu'on appelle la cryoconcentration. C'est-à-dire que l'eau cristallise et se débarrasse de la matière sèche, c'est ce qui nous intéresse. Et ça crée des longueurs en bouche exceptionnelles. Et quand là-dessus, vous rajoutez, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5% d'un produit fermenté, traité de la même façon, et que vous ajoutez à votre sauce, vous avez non seulement une longueur en bouche, mais en plus une onde gustative forte, puisque c'était une matière vivante, c'est une matière qui donne vraiment du ressort en bouche. Et quand on pratique la grande cuisine comme je la pratique, ces détails sont hyper importants.
Je disais tout à l'heure que la fermentation avait eu mauvaise presse, en tous les cas qu'elle avait disparu, alors que vous racontez dans votre histoire et civilisation de l'aliment fermenté, Marie-Claire Frédéric, que la fermentation, qui est cette méthode de conservation ancestrale, c'est précisément ancestral, c'est-à-dire que c'est quasiment vieux comme le monde. Pourquoi ça a disparu et pourquoi ça revient aujourd'hui à la mode, à votre avis?
Alors, je pense que ça a disparu en fait assez récemment, après que Pasteur ait découvert les micro-organismes qui étaient responsables de la fermentation. Parce que le fait que ce soit des micro-organismes, je pense que ça a fait peur. Parce que les micro-organismes, effectivement, ils sont responsables également de maladies qui peuvent être très graves. Et donc, ensuite, on a commencé à tout apertiser, à tout stériliser. Il y a l'industrie agroalimentaire qui a pris un essor énorme, qui a un petit peu standardisé aussi les goûts. Et aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène, parce que je pense que les gens veulent reprendre le contrôle de ce qu'ils mangent. Ils veulent redonner du goût et essayer d'éviter cette alimentation standardisée. Parce que la fermentation, c'est l'anti-uniformisation des goûts, l'anti-standardisation.
Est-ce que c'est pas aussi que ça a été remplacé par d'autres méthodes de conservation?
La congélation, l'apertisation, tout ça. C'est plus facile d'ouvrir une boîte de petits pois ou d'aller, voilà, que de mettre dans un bocal
avec son joint en caoutchouc.
Et d'attendre au moins 3 semaines, 1 mois que ça
fasse. Mais bon, moi je pense que c'est une réponse écologique. La fermentation. On conserve des aliments sans avoir eu besoin d'énergie. Ça permet de vraiment d'avancer et je crois que ça va dans le sens aussi du moment que de faire en sorte qu'on vive mieux, on arrête d'abîmer cette planète et que l'on consomme différemment. Donc ça fait partie d'une rééducation, je crois, des gens que de retrouver ces réflexes complètement primitifs.
Pourquoi ça va dans le sens de l'environnement et de l'écologie plus qu'une autre méthode de conservation?
Claire le disait très bien, je crois qu'on n'a plus envie de manger des choses lyophilisées, on n'a plus envie d'entendre les gens nourrir des vaches avec de la farine animale. Ça suffit, donc il faut qu'on se mette tous en route pour trouver des solutions et donner aussi aux industriels l'envie d'arrêter parfois de faire n'importe quoi, parce que ça détruit complètement notre capital planète. Donc on est tous engagés là-dedans, et le fait de se retrouver avec des experts qui donnent des solutions aussi fiables, permettent aux gens de voir les choses autrement.
Je faisais référence tout à l'heure à James Cook, ce navigateur du XVIIIe siècle, qui avec ses marins mangeait de la choucroute. Choucroute, c'est un plat fermenté. Et le plat fermenté qui était la choucroute leur a permis d'éviter le scorbut, maladie qu'on sait liée à l'absence au manque, à la carence en vitamine C. Et cette petite anecdote, Marie-Claire Frédéric, pour que vous nous disiez à quel point aussi un aliment fermenté est connu pour être bon pour la santé, à condition donc que la main de l'homme ait bien contrôlé le processus.
Voilà, c'est-à-dire que la fermentation rajoute des vitamines, rajoute plein d'éléments nutritionnellement intéressants, comme des acides organiques, des acides aminés, ça rajoute des vitamines, plein de bonnes choses.
Une choucroute, c'est combien de boîtes d'Enobiol?
Je crois que une seule portion de choucroute, c'est comme si vous preniez toute la boîte de
gélules. Ça fait trop, hein, faut pas en avoir trop non plus de vitamines.
Au point de vue des microbiotes.
Yannick Aleno, vous êtes un chef cuisinier, donc je suppose que vous avez des cuisines de taille assez grande. Avoir des bocaux dans ces cuisines, c'est quand même pas permis à tout le monde, parce que il faut avoir de la place de les mettre, ces bocaux, quand même.
Il faut avoir de la place. En tout cas, moi, je trouve que ça nous amène à une relation avec le client particulière. Parce que quand on passe vers l'endroit où on stocke nos fermentations, les gens sont curieux et on les amène dans notre univers. C'est un avantage communicatif exceptionnel. Et les gens sont très intéressés parce qu'ils en entendent parler de plus en plus. Ils veulent savoir comment faire. Ils veulent voir à quoi ça ressemble. Et je trouve ça formidable. Et je pense pas qu'il faille une place monumentale pour stocker des légumes. Évidemment, après, c'est des choix. On peut pas tout avoir à la maison, je suppose.
Ni plus ni moins que des boîtes de conserve, vous avez envie de nous dire.
Déjà, on gagne de la place, ouais, effectivement. Mais je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser, ne serait-ce que pour une découverte de goût particulière.
Avec la Frédéric.
Oui, nous c'est pareil, les bocaux, on en met quelques-uns dans la vitrine et il y a énormément de gens qui passent dans la rue et qui s'arrêtent pour regarder. On a mis une petite notice explicative et les gens s'arrêtent pour regarder, ça les intéresse vraiment.
Le nom de votre restaurant, Suri, est lié à la fermentation?
Le nom est lié à la fermentation parce qu'on cherchait un nom qui fasse pas peur aux gens, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, fermenter, ça peut évoquer putréfier, en décomposition, etc. Donc on a réfléchi, et le mot suri, c'est un très vieux mot en fait de la langue française. Suri, ça signifie acide ou aigre, mais sous l'effet d'une fermentation. C'est la même racine que le mot les harengs sort, par exemple, que le mot sauerkraut, choucroute. Le mot sour, ça vient de la même racine que suri. C'est le mot aussi qui a donné le sérum en latin. Donc c'est une très vieille racine indo-européenne. Et donc j'ai choisi ce mot-là pour le restaurant.
Bon, on va quand même parler de cuisson, puisque vous avez commencé de le faire, Yannick Aleno, et qu'on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais on va laisser passer la madeleine, si vous le voulez bien. Vous écoutez France Culture, les bonnes choses. Matteo Caranta, Bruno Dumont donc.
Ben oui, j'ai rencontré le cinéaste Bruno Dumont, dont le film Jeanne vient de sortir au cinéma. Alors comme toujours chez Bruno Dumont, on oscille entre l'austérité et la farce. Et comme toujours dans ses films, Tiquinquin et Malout inclus, ça se passe dans le nord de la France. Et ben c'est justement là, dans les sous-sols de Bailleul où il a grandi, que fermente sa madeleine souterraine.
Je suis né à Bailleul, donc dans une ville, mais qui était au bord de la campagne. Et dans la campagne, il y avait des champs. Donc, quand j'ai dit à mes parents que je voulais travailler, ils m'ont dit qu'est-ce que tu peux faire? T'as qu'à aller travailler avec des agriculteurs. Donc, ils devaient connaître un paysan. Ils leur ont demandé est-ce que mon fils peut y aller. Donc, j'ai été pris par le paysan pour travailler pendant 3 semaines. Donc, le premier travail que j'ai fait, c'est un travail à la ferme. Et j'ai ramassé des pommes de terre. Donc je m'en souviens encore. Et ça m'avait plu, et j'avais repris, même dans la vie de Jésus, cette scène-là où il disait, le personnage disait, où sa mère l'engueulait pour lui dire qu'il devait aller aux patates. Donc aller aux patates, c'était justement aller ramasser des pommes de terre. Mais on les ramassait avec une machine, hein, déjà, mais on surveillait que la machine fasse bien son travail. Je suis du Nord, moi, donc si vous voulez, donc je suis plutôt plongé dans la frite. Donc je connais bien la cuisson de la frite. Il faut la cuire deux fois, en fait, pour qu'elle soit bonne. Il faut attendre qu'elle refroidisse, donc il y a un premier bain. Donc ça apprend la patience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la manger trop vite. Voilà, donc il faut d'abord l'éplucher. J'ai aussi repris ça dans Maloute, d'ailleurs, quand je vous en parle maintenant, je m'en souviens. Est-ce qu'il faut d'abord essuyer les pommes de terre avant de les éplucher ou les éplucher avant de les essuyer? Il y a débat sur cette question. Moi, je connais des gens qui commencent par laver les pommes de terre, sachant qu'ils vont les éplucher. Et moi, j'épluche la pomme de terre et je la lave ensuite. Ensuite, je la coupe et après, donc, je la plonge dans un bain et puis je la cuis pendant 5 minutes. Et ensuite, je la ressors et puis j'attends 5 minutes et je la replonge une deuxième fois. Normalement, c'est bon. C'est ma mère qui faisait les frites, donc c'est ma mère qui me l'a appris. Et moi, je pense qu'on devait manger quand même 3-4 frites par semaine quand même. Donc c'était quand même le légume favori. À la fois, il y a de l'huile, il y a une espèce de dorure externe. Donc il y a quelque chose d'un peu rude, d'un peu croquant. Il y a beaucoup de chaleur à l'intérieur, donc c'est une bonne petite synthèse de l'existence en général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux aliments cuits, en fait. Moi, je suis plutôt cru, en fait. J'aime beaucoup le cru, mais je trouve que quand on mange une frite, on a à la fois le cuit et le cru. C'est-à-dire que le cœur de la pomme de terre, qui est encore chaud, il a quand même conservé quelque chose de cru. Et cet alliage des deux me plaît bien. Je trouve que c'est bien de réussir, dans la vie comme dans la cuisine, à allier le cru et le cuit.
Un peu comme vous, finalement, Yannick Aleno et Marie-Claire Frédéric. Ni cru, ni cuit, c'était le titre de cet ouvrage que vous avez signé, Marie-Claire Frédéric. Et j'aimerais justement qu'on en vienne à ce ni cru, ni cuit, ou écru et cuit. La cuisine, c'est quand même l'art de passer du cru au cuit. Yannick Aleno. Et donc, l'on ne voit pas très bien tout de suite comme une évidence le lien qu'il peut y avoir entre la cuisine et la fermentation. Vous nous parliez de la cuisson, basse température, oui, en particulier tout à l'heure. Expliquez-nous ce lien que vous faites entre la cuisine et la fermentation.
Alors en fait, si on prend une choucroute qui est juste fermentée, le premier réflexe, je dirais, était de mettre une bouteille de vin dessus et de la faire bouillir pendant plusieurs minutes, voire quelques heures parfois. Et bon, évidemment, tout ça est très agressif sur la teneur du produit. C'est très difficile après d'avoir les subtilités du chou. En fait, la fermentation prépare l'aliment à la digestion aussi. Donc ça a quelque chose de très favorable pour l'assimilation des aliments. Et dans les grands restaurants, c'est un atout formidable parce que quand on fait des grandes dégustations de 14 ou 16 plats, d'être passé par le côté fermentaire sur certains sujets permet effectivement de sortir du repas avec beaucoup plus de légèreté. Donc on y trouve un intérêt fort.
Mais c'est presque une troisième voie entre le cru et le cuit, d'une certaine façon, la fermentation.
Moi, je suis un cuiseur, donc j'ai pour habitude de passer au feu les aliments qui ont parfois eu cette préparation préliminaire de fermentation, parce que j'estime que le travail n'est pas fini. En tout cas, on vient chercher d'un cuisinier une expérience, une rencontre entre des aliments, une grande sauce. Donc le fait de passer comme ça sous un feu de bois, il nous est arrivé de faire des betteraves qu'on a laissé fermenter pendant presque un an et on les a cuits ensuite au feu de bois. C'est juste exceptionnel avec un gibier qui va arriver sur les tables en ce moment. Donc ça permet d'avoir vraiment l'occasion de donner aux gens des goûts qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Et c'est pour ça qu'on vient en grand restaurant aussi. C'est pour avoir des choses qu'on ne peut pas faire à la maison.
Marie-Claire Frédéric.
Oui, c'est tout à fait vrai. La fermentation, c'est... En fait, un aliment fermenté, c'est encore un produit brut. Donc ça, il a besoin d'être retravaillé, d'être cuisiné pour le déguster.
C'est une préparation.
C'est une préparation.
Et on a inventé des recettes incroyables avec Marie-Claire. On avait fait une bière d'aubergine,
oui,
conservée avec l'aubergine et le cèpe. C'est un mariage très heureux. Mmh. Conservée avec une préparation de cèpe. Et on faisait partir les gens dans quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui est intéressant, je crois.
Quoi ? Est-ce que vous sauriez mettre des mots sur cette expérience-là ? Sur la différence du goût que vous obtenez avec la bière d'aubergine,
c'est une histoire de longueur d'onde du goût.
Est-ce que vous disiez, ouais, tout à l'heure, Yannick Aleno?
C'est tout à fait ça. tout à fait ça. On a l'habitude d'utiliser le mot umami pour désigner quelque chose qui est très bon au goût. Et je pense que la fermentation et l'umami sont très liés l'un à l'autre. Parce que justement, ça ne rajoute pas un goût supplémentaire. Ça va changer la tonalité du goût.
Voilà. Un exhausteur de goût.
Un exhausteur de goût, mais en même temps, ça change la couleur, ça change la tonalité. Je ne sais pas trop comment.
Ouais, Claire parlait tout à l'heure du Nyokman, par exemple. Oui. On est français et fiers de l'être. On a une sauce, une préparation culinaire qui s'appelle, que tout le monde connaît, je crois, qui s'appelle l'œuf meurette. Bourgogne, l'œuf poché au vin rouge. Et l'œuf meurette vient d'un garum de poisson bleu, c'est un nyokman de poisson bleu des Romains qui s'appelait le muria, dans lequel les Romains avaient adjoint du vin rouge, des aromates et cuit des œufs. Et donc l'histoire, elle arrive jusque dans le monde contemporain, sauf qu'aujourd'hui, peu de cuisiniers savent ce genre d'histoire, ou peu de cuisinières ou de gens à la maison savent cette histoire. Donc le fait de partir et de monter une sauce sur ce nyokman de poisson bleu, par exemple on fait de la sardine, des poissons communs, ça donne quelque chose de tout à fait remarquable.
Vous dites le peu de chefs le savent encore. Il y a quand même des choses qui arrivent jusqu'à nous, qui deviennent même peut-être à la mode. Je pense au kéfir, le kéfir qui est un lait fermenté du Caucase, ou le kombucha qui est une boisson acidulée mongole. Les pickles, vous pouvez pas aller dans un restaurant aujourd'hui sans avoir les pickles, les olives, des cornichons. Tout ça, c'est des choses fermentées. Vous le faites d'ailleurs, Marie-Claire, Frédéric,
oui,
vous faites des kéfirs de fruits.
Des kéfirs de fruits, kéfirs de lait, le kombucha, tout ça, nous le faisons, oui.
Et donc c'est facile à faire, c'est à portée de tout le monde de faire
la fermentation. C'est vraiment à la portée de tout le monde.
On met dans un bocal,
mais après, c'est-à-dire qu'après, il faut avoir une certaine sensibilité pour justement arriver à un bon résultat. Il faut être attentif, pour bien conduire son produit.
C'est une matière vivante, hein, donc il faut y faire attention.
Donc il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu, la température, même le temps qu'il fait, la pression atmosphérique, et le temps, la durée aussi. Donc il faut jouer sur tous ces paramètres pour arriver à faire un bon produit.
En quoi ça consiste, Yannick Aleno, si on prend, alors je m'adresse pas au chef 3 étoiles qui est devant moi, mais vraiment à l'homme qui cuisine au quotidien avec des produits fermentés. Est-ce qu'encore une fois, c'est à la portée de tout le monde de faire un exercice de fermentation? Est-ce que ça s'apprend facilement de fermenter?
C'est hyper simple. Vraiment, c'est hyper simple. Il y a quelques règles très simples à savoir, mais globalement, de l'eau,
du sel.
Ah, vous regardez encore, Marie-Claire Frédéric, hein.
un légume sain, surtout, je crois qu'il faut aussi choisir le meilleur du produit, et puis d'être patient, et au bout de 3 semaines, vous commencez déjà à avoir des résultats. Et il y a un truc à savoir simple, c'est que une fermentation loupée, c'est facile à reconnaître. Quand vous ouvrez le bocal, c'est insupportable. Ça sent tellement mauvais que vous avez même pas envie de le consommer. Donc vous ne risquez rien, en fait.
Oui, c'est facile à reconnaître quand c'est raté.
Tout à fait, tout à fait.
Et d'ailleurs, vous proposez, Marie-Claire Frédéric, désormais des ateliers d'apprentissage de la fermentation.
Oui.
Les prochains ont lieu bientôt. Alors pour les yaourts, le premier cours a lieu demain. C'est demain soir, de 18h à 20h. Pour des légumes lacto-fermentés, c'est le 22 septembre, dimanche prochain, voilà. Le 18h à 20h. Et c'est au restaurant Surie, à Paris, chez vous. Et puis il y a aussi les boissons fermentées sans alcool. Par exemple, le kéfir
et le kombucha.
Ça, ce sera le 30 septembre. On mettra les dates sur notre site internet. Vous restez avec nous. C'est l'heure d'écouter Pierre Iverna pour la cerise sur le gâteau. Pierre Iverna, on est dimanche, mais on va sur les bancs de l'école, puisque vous nous dites que la cantine bio, c'est moins cher.
Et oui, c'est étonnant, Caroline. Et effectivement, après que Cédric Villani a débuté sa campagne pour les municipales en annonçant une cantine bio à 100% pour les petits Parisiens, provoquant ainsi le rire sous cap de ses concurrents se gaussant de son peu de compétences en gestion de collectivités locales, je me suis penché sur un guide tout à fait singulier. Et je le dis tout net, je pense sérieusement que la chose peut vous permettre de vous projeter à la tête d'une mairie, fort d'un apport massif de nombreuses voix de parents d'élèves. À un moment crucial de notre vie démocratique, où l'on nous annonce pas moins de 50% de maires sortants qui ne vont pas se présenter en mars prochain, voici donc un document que tout futur candidat ou apprenti candidat doit lire, un guide de première nécessité politique, quel que soit votre parti politique. La chose s'intitule « Cantine bio, 2. Le guide pratique des élus ». Et ça vous remet quelques pendules à l'heure côté gestion de l'alimentation de nos enfants et, in fine, côté santé publique. Alors d'abord, quelle est la situation actuelle? Eh bien Caroline, tout simplement déplorable. Aujourd'hui, en France, les cantines plafonnent à moins de 4% de leurs achats alimentaires en bio et aucune étude sérieuse ne montre la part du local et des signes officiels de qualité. Vous me direz, oui, mais la loi issue des états généraux de l'alimentation récemment votée demande d'atteindre 30% de durable et 20% de bio d'ici à 2022 et ça devrait donc s'arranger. Oui, mais non.
J'aime beaucoup quand vous faites les questions-réponses.
Oui, je fais aussi les réponses et ça, il existe encore malheureusement un blocage, le blocage des blocages, l'argument massu qui stoppe tout débat et toute avancée. Ça coûte trop cher. Eh bien, amis futurs élus, apprenez bien l'argumentaire et le processus de l'équipe de 1 plus bio qui a rédigé ce guide. Et répondez-vous en campagne avec ce slogan qui va vous rapporter des voix à coup sûr, le bio c'est moins cher. Et d'abord les chiffres de la réalité. Depuis la création de l'Observatoire de la restauration bio et durable, développé par 1 plus bio, les données récoltées dans plus de 3000 cantines qui servent des produits bio montrent que leur coût matière n'est pas plus élevé que chez les autres. Mais attention, c'est vrai que ce levier pour contenir les prix n'est pas suffisant. Je ne vais pas évidemment dans cette chronique rentrer dans les détails extrêmement précis et pertinents de ce guide, mais retenons quand même la première piste importante qu'il propose, réduire le gaspillage alimentaire. Parce que rappelons quand même, Caroline, que les cantines jettent, tenez-vous bien, un tiers de ce qu'elles achètent. Avec ce que 1 plus bio appelle une double peine, car il faut ensuite financer le traitement des ordures ménagères qui en découlent. 1 plus bio propose ainsi de mettre en place des campagnes de pesée quotidienne dans les réfectoires, en instituant une chaîne de tri à la sortie du service par les convives eux-mêmes, de travailler le type de recette, la taille des portions, le surplus cuisiné, la formation des chefs, etc. Bref, en une vingtaine de pages téléchargeables gratuitement sur le site de l'association, d'une pédagogie sans faille, avec les notes d'humour qui vont bien, Cédric Villani peut s'avancer dans sa campagne sans peur d'être contredit. Il trouvera même un chapitre intitulé « Comment réagir face au collectif citoyen » qui devrait définitivement le détendre pour la suite.
Ça s'appelle « Cantine bio, le guide pratique des élus » et donc c'est trouvable d'ores et déjà en ligne, je suppose.
C'est en ligne depuis quelques jours sur le site de 1 plus bio.
Et sur le site d'alimentation générale ?
Bien sûr, et sur le site,
et sur le site de France Culture. Merci beaucoup Pierre Hiverna. Un grand merci à tous les deux, Yannick Aleno et Marie-Claire Frédéric d'être venus ce midi. Je rappelle le titre du livre qui est encore disponible, signé Marie-Claire Frédéric, Ni cru ni cuit, histoire et civilisation de l'aliment fermenté chez Alma Éditeur. On peut aussi renvoyer au guide de la fermentation au Noma de René Redzepi. Mais alors là, c'est un livre énorme, très très grosse somme, qui est un guide de fermentation aux éditions du Chêne, comme quoi effectivement vous faites des petits, Yannick Aleno, en particulier chez René Redzepi. Merci beaucoup, merci. C'est ainsi que se termine cette émission. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Leduo, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Valentin Bobinet, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.